au fil de l'été. Bonjour à tous, Chantal Doré de retour au micro d'Au fil de l'été, la version estivale d'Au fil du temps. Suite à un congé pour déménagement la semaine dernière, eh oui, j'ai cassé maison. Comme le veut l'expression qui désigne la transition entre la maison familiale, bien remplie de meubles et de souvenirs, pour une maison de retraite, un condo ou un appartement plus petit qui convient mieux à un nouveau style de vie. Les déménagements sont comme les mouvances de l'existence. Ça bouleverse, ça empêche l'habitude, écrit Louise Portal dans son roman « Jeanne Janvier ». Louise Portal, que nous avons eu le plaisir de recevoir lors de l'émission du 23 mars dernier, que vous pouvez réécouter sur canalm.vusezvoix.com, Spotify et les autres plateformes de balado-diffusion. Déménager, c'est souvent l'occasion de réfléchir à notre destinée, à comment la transformer pour le mieux. Et c'est d'ailleurs un sujet que nous aborderons au cours de l'émission. Que nous ayons encore beaucoup de chemin devant nous ou pas, on peut en tirer le meilleur. À ce sujet, nous recevons Marie-Ève Fortier, autrice de « Transforme ta destinée » et d'un second livre en préparation appelé « Tu es venue ici pour goûter au chocolat ». En première partie, nous parlerons d'une grande dame de la chanson française qui a eu, elle aussi, une fabuleuse destinée, Monique Lérac. C'est la première interprète québécoise à avoir percé à l'international qui voit sa carrière racontée cet été dans une exposition qui lui est consacrée par le Musée des communications et d'histoire de Sutton. Et c'est un invité régulier de notre émission, Richard Leclerc, qui vient nous causer de cette exposition, du parcours de Monique Lérac et de ce que ça témoigne de notre époque. Monique Lérac, on peut certainement dire qu'elle fait partie de la Sainte Trinité des grandes voix québécoises qui étaient Pauline Julien et René Claude. Et nous aurons l'occasion d'écouter quelques-unes de ses pièces en voyant... En voici d'ailleurs, désolé, on dirait qu'une semaine sans émission de radio et on a le temps un peu de devoir reprendre notre rythme de croisière. Alors voici donc une chanson fort entraînante. C'est toute une musique.
En chaque chose, à chaque pas, je trouve un peu de toi. C'est la chanson du souvenir qui ne veut pas mourir. C'est toute une musique qui me parle de toi. C'est toute une musique qui me suit pas à pas. C'est toute une musique qui vient, qui revient me chercher. Moi qui croyais avoir tout oublié. C'est toute une musique qui passe dans ma tête. C'est toute une musique qui vient comme une. C'est toute une musique du temps où nous étions certains de vivre pour toujours le grand amour, oh, le grand amour. J'entends ta voix, j'entends ton pas, j'entends à chaque fois. Ils ont ta voix, ils ont ton pas, mais ce n'est jamais toi. C'est toute une musique qui me ramène à toi. C'est toute une musique qui revient malgré moi. C'est toute une musique qui reste, qui restera, je crois, entre nous deux, comme un cadeau d'adieu. C'est toute une musique qui brûle ma mémoire. C'est toute une musique, c'est toute notre histoire. C'est toute une musique qui fait que se brise ma vie. Et c'est toujours ainsi un grand amour, un grand amour. C'est toute une musique qui gronde dans ma tête. C'est toute une musique comme un bruit de tempête. Et pourtant j'ai besoin encore de l'entendre plus fort, car à
Ah, c'est toute une musique. Et notre Maurice Bolduc national de l'autre côté du plexiglas en a la chair de poule et moi aussi. C'est toute une musique écrite par Valto Leitinen, que je prononce sûrement mal, et Marc Bonnard est interprétée par la magistrale Monique Lérac, dont on célèbre la carrière dans une exposition présentée à Sutton cet été. Pour nous donner envie d'y assister et profiter de cette belle région qu'est l'Estrie, les Cantons de l'Est, nous recevons Richard Leclerc, que nous avons eu le bonheur d'entendre le 16 février dernier, le 15 septembre 2020 et le 14 juillet 2020. Bonjour, Richard.
Bonjour. C'est devenu un beau rendez-vous, quoi.
Oui, absolument. Très contente de te retrouver. Pour ceux qui ont déjà entendu ta participation à l'émission, on sait que tu es une personne très impliquée dans ta communauté et tu as eu, je crois, cette idée de cette exposition-là. Alors, j'ai envie que tu nous racontes comment c'est arrivé cette idée fantastique.
Bien, au départ, vous savez que le musée de Sutton, depuis une douzaine d'années, on fait des expositions sur des gens qui ont habité la région. Mm-hmm. Bon, idéalement Sutton, mais quand même, on fait quelques petites exceptions. La dernière fois, on avait Falardeau qui était de Duncan. Alors, de fil en aiguille, finalement, je fais toujours ce que j'appelle. Je suis attentif, je regarde finalement qui a habité ici à Sutton ou dans la région. Et naturellement, Mme Lérac a habité à Sutton. En 2018, fin 2018, 2019, le jour de son anniversaire, j'ai été cogné à sa porte.
Oh, quelle audace!
avec un petit bouquet de fleurs. Il faut savoir faire les choses.
Oui.
Et là, je lui ai demandé si elle acceptait qu'on fasse l'exposition sur sa carrière, parce qu'il n'y en a jamais eu, par ailleurs. Ça, c'est assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des expositions qu'on a fait ces dernières années, que ce soit Jean Benoît, que ce soit François Dompierre, Falardeau et compagnie. Il n'y a jamais eu vraiment d'exposition dans des musées de Montréal, tout ça. Alors, nous, on profite de cette occasion avec le nombre de gens qui habitent dans notre région, qui ont eu des belles carrières. Alors, j'ai cogné à la porte de Mme Lérac et elle a accepté. Malheureusement, elle est décédée depuis, en décembre 2019. Et j'ai continué le projet avec sa fille Sophie Gironnet. Donc, vous comprenez qu'avec la pandémie, c'était l'exposition qui était prévue l'an dernier. Mm-hmm. Mais en même temps, avec le décès de Monique en décembre, disons que Sophie n'était pas trop chaude à l'idée de faire une exposition à si court terme sur sa mère. Bref, la pandémie nous a permis, jusqu'à un certain point, de laisser passer un peu de temps, puis on s'est remis à travailler sur ce projet là il y a presque un an, Sophie et moi. Et voilà, là maintenant, il y avait, comme beaucoup d'autres artistes, si vous voulez, une source incroyable de photographies, d'éléments, pas trop d'artefacts personnels. Mmh. Cependant, j'aurais bien aimé avoir, par exemple, des costumes, parce qu'elle a quand même joué au théâtre. Mmh. On pense souvent, puis vous avez commencé avec C'est toute une musique, mais on pense souvent à Monique Lérac comme chanteuse. Mais dans son fort intérieur, Monique, avant tout, elle voulait être comédienne. Et quand elle a commencé sa carrière, c'est vraiment de ce côté-là, au théâtre, puis ensuite un peu de télé, qu'elle visait faire sa carrière. Mais elle a chanté.
Mais c'est de l'interprétation, c'est de rendre un rôle.
Ben voilà. Et moi, je pense que ce qui est exceptionnel chez Mme Lérac, justement, c'est la qualité de ses interprétations, parce qu'étant comédienne, elle va beaucoup plus loin. Elle n'est pas statique devant un micro, elle joue.
Absolument.
sa chanson. Alors, ça lui donnait un avantage assez exceptionnel, je crois. Et c'est ce qu'on essaie de faire ressortir dans cette exposition du musée. C'est Monique Lérac, la comédienne et la chanteuse. Donc, l'une ne va pas sans l'autre. Pour nous, finalement, c'est un élément important. Puis, d'ailleurs, Sophie a beaucoup insisté là-dessus quand on a commencé à travailler sur ce projet.
On voit les deux facettes de sa mère.
C'est ça, exactement. Puis, c'est ce qu'on présente. finalement une belle exposition, je pense. Je suis mal placé, là, je suis biaisé.
On ira voir, on ira valider, Richard. Mais dis-moi, pourquoi Monique Lérac, elle a autant marqué son époque? Et là, je m'adresse à nos auditeurs qui ont connu, qui ont vu son parcours. Je sais, entre autres, qu'elle a présenté des spectacles au mythique Expo 67. Je n'étais pas encore née, donc je ne suis pas allée. Mais... qu'est-ce qui fait que son parcours, là, motive une telle exposition? Comment on devrait venir s'imbiber de son œuvre? Et pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connue, là, qu'est-ce qu'on a à savoir sur Monique Lérac?
Bien, comme je l'expliquais, c'est une femme de théâtre et une femme de chanson. Bref, il y a eu comme un enchaînement qui s'est fait au niveau de sa présence dans le monde artistique, au niveau de sa présence dans les théâtres et à la télévision, puis ensuite même dans des films. Elle a joué quand même dans quelques films. Cette femme-là, finalement, avait beaucoup de talent et elle fut à l'époque, puis d'ailleurs, si vous regardez un peu sa discographie, on a sorti dans les années 60 un coffret avec 3 CD puis un DVD qui s'appelle La Diva des années 60. Donc, Monique a été finalement une grande diva québécoise. Tu sais, aujourd'hui, naturellement, on pense à Céline Dion quand on pense à diva, mais Monique, elle avait cette popularité. Ça a commencé dans les années 50, puis elle a culminé dans les années 60. Elle chantait à Paris, à New York, au Canada anglais. Elle était vraiment la vedette incontestable au niveau québécois et qui s'exportait facilement. Elle chantait en français, en anglais. Donc, elle était accueillie très chaudement partout où elle passait. Alors, nous, on a eu la chance de la voir ici, plus souvent peut-être qu'ailleurs, mais c'était vraiment devenu une vedette internationale. Pour l'époque, là, c'était elle qui, finalement, ouvrait des portes à d'autres artistes québécois qui, ensuite, ont suivi un peu son chemin.
J'ai même lu, en faisant la recherche, qu'elle a gagné un prix en Pologne.
Exact, à Sopot. Je ne sais pas si on dit Sopot ou Sopo, là, je ne suis pas polonais, mais effectivement, elle a pris une interprétation de la chanson avec Mon pays de Gilles Vigneault. Bref, c'est ça. Elle a eu comme des moments très forts dans sa carrière. Là, c'est avant 67, là, c'est en 65, si je me rappelle bien, Sopot. Puis, c'est ça. Donc, elle a connu une belle carrière, pas seulement au Québec, mais à l'étranger. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui une personne. Qu'on doit reconnaître. Puis moi, ce que je constate, ça fait quelques semaines déjà que l'exposition est ouverte, beaucoup de gens entrent pour voir la chanteuse. Mais ils ressortent
et découvrent la comédienne.
En étant comblés, en effet, par cet aspect qui s'ajoute. J'ai l'impression qu'on ne la connaît pas suffisamment. Donc, cette exposition, finalement, donne, puis je viens encore d'avoir 2 personnes là, qui viennent de sortir du musée qui me disent « Hey, on savait pas ça. on ne se doutait pas de tout ça. » C'est ça qui est assez exceptionnel. C'est la carrière, mais vraiment complète qu'elle a pu faire. Puis elle a quand même été active jusqu'en 1995. Donc, c'est quand même... elle a décidé, dans les années 80, d'arrêter de chanter. Elle disait elle-même qu'elle ne voulait pas devenir une vieille chanteuse.
Elle est devenue immortelle, plutôt.
Elle est devenue immortelle, mais elle a continué, malgré tout, à répondre à des demandes pour faire de la comédie, puis jouer dans des pièces de théâtre et tout ça. Alors, c'est quand même assez exceptionnel comme carrière. Puis, voilà. Moi, je pense qu'avec le temps, de 95 à 2019, date de son décès, on a peut-être commencé à l'oublier tranquillement. Vous savez, le show business, là, si vous n'êtes pas là, on vous voit pas, on vous oublie un peu. Et je pense que cette exposition-là a comme ce rôle aussi de réhabiliter Monique Lérac de la scène, si je peux dire, pour qu'on la connaisse mieux puis qu'on apprenne tout ce qu'elle a pu faire.
On va continuer après la pause musicale à parler de son parcours, peut-être aussi de sa personnalité, des contributeurs avec qui elle a fait de beaux partenariats. Je t'invite, Richard, à nous présenter la pièce qui est en fait le titre de l'exposition.
Oui. Alors, c'est ici que je veux vivre. Mm-hmm. J'ai fait exprès, comme vous comprenez, comme elle vivait à Sutton, je crois que c'était le titre le plus à propos pour cette exposition. Puis c'est en plus une très, très belle chanson écrite par Plamondon. Alors, voilà. C'est ici que je veux vivre, à Sutton.
C'est parfait. On l'écoute tout de suite et on de retour.
Tu peux m'offrir tout le soleil de l'univers, de Corfou jusqu'au Cap-Vert, de Rio à Vancouver. J'aime encore mieux mes hivers, c'est ici que j'ai envie de jouer mon avenir. Sur quelques arpents de neige, où j'ai encore un monde à bâtir pour donner un sens à ma vie. C'est ici que je veux vivre, au froid bleu, au soleil blanc. C'est ici que je veux vivre, au froid bleu, au soleil blanc. C'est ici que je sens battre mon sang. Tu... Je suis encore sur la note, hein? Ah. Tu peux m'offrir tout le soleil de l'univers. Encore mieux mes hivers, c'est ici que j'ai envie de jouer mon avenir sur quelques arpents de neige qu'il me faut toujours reconquérir pour donner un sens à ma vie.
Wow! Oui, applaudissons. Maurice nous a trouvé une version a cappella où on peut vraiment pleinement apprécier la voix colossale, magistrale de Monique Lérac. C'était
J'en ai des frissons, en tout cas.
Oui, hein?
Ouais, je la connaissais, cette version, mais chaque fois que je l'entends, là, c'est génial. C'est vraiment très beau.
C'est tout l'hommage, justement, au Québec, hein, au froid bleu, au soleil blanc. On se reconnaît.
Oui, c'est magnifique.
Ça a été enregistré dans un spectacle au printemps 1992 qui était un hommage à Plamondon. Et j'aimerais peut-être, justement, que tu nous parles de sa découverte. Je pense que ça a été un coup de cœur et Plamondon, ça a permis de faire émerger un grand parolier également.
Exact. Plamondon, à l'époque où il a rencontré Monique, il avait écrit « Dans ma Camaro ».
OK.
Et une chanson qu'on connaît bien avec Steve Fizet.
Mm-hmm.
Et quand Monique a entendu ça, elle a appelé Plamondon. Elle dit « Je veux que tu m'écrives des chansons, je trouve que tu écris bien.
» Wow! Alors, donc c'est Monique qui a un peu, qui est allée cogner à sa porte avec un bouquet de fleurs.
Ah, peut-être, je sais pas, là, elle n'a pas ajouté ce détail. Mais Plamondon, ça fait partie de la vidéo qu'on présente au musée, d'ailleurs, est étonné, il dit, Monique Lérac qui m'appelle, qui me chante dans ma Camaro, parce que apparemment que c'est comme ça qu'elle est entrée en matière, elle y a chanté le début de la chanson, il ne revenait pas, il dit, ben non, c'est pas Monique Lérac, c'est pas la grande chanteuse qui me fait ce coup-là. Puis là, ben, finalement, elle l'a enfermée 3 mois. Dans sa maison, elle vivait en France à l'époque aussi. Là, elle
faisait en Provence,
même,
oui.
Oui, c'est ça. Elle se promenait entre le Québec et la Provence, pas mal. Et elle a finalement enfermé Plamondon, qui devait lui écrire des chansons. Il sortait pas s'il n'écrivait pas au moins un couplet ou un refrain par jour.
Ah ben c'est de l'esclavage qui nous a été utile pour nos oreilles.
Exact. Non, c'est vraiment... Moi en tout cas, en montant une exposition, à chaque fois, je peux faire le coup, j'apprends aussi beaucoup. Tu sais, c'est dans le sens que c'est vraiment quelqu'un qui, comme je l'expliquais au tout début, là, qui a fait des choses, là, tu sais... Qui est arrivé à la radio, puis tout ça, par le Faisan Doré, là, un cabaret de Montréal. Elle était avec Charles Aznavour puis Jacques Normand, avec qui d'ailleurs elle aurait eu une aventure au tout début.
Lequel des deux? Parce que là, j'ai cru Jacques entendre Normand. Que c'était peut-être les deux.
Ah, écoutez, c'est une autre époque. mais je pense qu'elle avait en effet de belles amitiés. c'est ça. Puis après, le film Les Lumières de ma ville en 49. Ensuite, des spectacles au Montmartre, au Saint-Germain-des-Prés. Si on fait un peu l'étalage de tous ces éléments-là, c'est extraordinaire. Là. Il n'y a pas beaucoup d'artistes québécois qui peuvent se vanter d'avoir vécu, en tout cas, tout ce qu'elle nous a proposé. Ça, c'est clair.
Ça prend quand même un certain caractère bien trempé pour percer comme ça à l'époque. Tu sais, de nos jours, c'est assez... Bon, c'est plus courant, mais c'est une dame qui a créé des avenues et des voies pour plusieurs artistes. Et j'ai lu qu'elle n'était pas... Peut-être qu'elle était une dame qui était très exigeante. J'ai lu que... c'est une entrevue avec Monique Giroux qui dit qu'elle n'en faisait qu'à sa tête de toute façon. Oui.
Bien, je ne veux pas généraliser, mais quand on est un grand artiste, on n'improvise pas. Là, on fait vraiment ce que j'appellerais des choses très bien orientées. Je n'irais pas jusqu'à dire très bien calculées, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a mené sa carrière à sa façon puis qui a fait des choses extraordinaires. Puis on parlait de Plamondon tantôt, mais elle a été accompagnée aussi d'André Gagnon. On parlait tantôt de l'Expo 67 avec André Gagnon qu'elle a fait ça là, au pavillon, à l'Expo Théâtre, là, au pavillon du Canada. Oui. Puis ensuite, ben voilà, elle est passée peut-être un peu plus à la chanson pendant un certain temps, mais... Finalement, elle n'a jamais abandonné non plus le théâtre, mais quand même, c'est plus d'une douzaine d'albums qu'elle a réalisés au niveau de la chanson. Il y a quelques compilations qui ont été faites, mais la filmographie, on a parlé des Lumières de ma ville, puis il y a eu avec Félix Leclerc, Troubadour de Claude Jutras, les Enquêtes Jeux Bidons, je pense que tout le monde, en tout cas, qui ont au moins mon âge, ça s'appelle peut-être un peu cette exposition, pas cette exposition, mais cette émission de télévision là, qui était de Marcel Cabé, puis de Gilles Carle et Guy Fournier, où elle jouait le rôle de Mademoiselle Claire, puis des Enquêtes Jeux Bidons, c'est un classique, en tout cas, de la télévision québécoise des années 60. Oui. Des 62-64, si je me rappelle bien.
Moi, je me rappelle davantage de l'avoir vue dans Les Dames de cœur.
Exact. Les Dames de cœur, où elle jouait le rôle de Laurence Trudel, sous la gouverne de Lise Payette.
Oui.
Quand vous regardez ça, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'elle a pu faire.
Sa biographie, je crois, a été écrite par un grand complice.
Oui, François Dompierre, qui a effectivement fait un peu de musique avec elle aussi. Puis François, bon, lui aussi est passé par Sutton à une époque. Alors, ce sont des gens qui se sont rencontrés, puis qui ont travaillé ensemble un peu. Puis je pense qu'effectivement, François, à l'époque où elle était en effet sur le Snake Road, François, il était au cœur du village, lui, puis il a entrepris... des rencontres qui ont permis d'écrire le roman d'une vie. Le livre qui en est sorti, finalement, un très bon livre. D'ailleurs, pour moi, ça a été une base importante pour monter l'exposition. J'avais là-dedans des références, des citations, tout ce que vous voulez, dans le fond, pour... Mais je le recommande. D'ailleurs, on est en rupture de stock. On a déjà de peine à avoir... des livres parce que ça se vend très, très, très bien.
Mais j'ai entendu que ça avait pris presque 10 ans pour réaliser cette biographie. Est-ce qu'il l'a enfermé pendant 10 ans, François Dompierre?
Non. Mais je pense que c'est peut-être un peu l'inverse qui est arrivé cette fois. Je pense que c'est François qui est allé au-devant de Monique pour justement la rencontrer le plus souvent possible, pour avoir de l'information sur sa vie, tout ça. Mais il y a un autre livre, lui, il est épuisé. Je ne sais pas si vous le connaissez, « Mon enfance à Rosemont ».
Oui, c'est ça. Elle est issue d'une famille modeste. D'ailleurs, c'est Monique Tremblay.
Véritable nom. Puis, elle a écrit ce livre. Ça, c'est une autobiographie, mais le livre de Monique Tremblay, peut-être plus que de Monique Lérac, qui raconte son enfance dans Rosemont. Alors, c'est là que vous voyez qu'effectivement, c'est une femme qui a travaillé, qui a mis sur pied finalement ce que j'appelle une méthode, une méthode de travail. Tout ça. C'est pas improvisé, comme je le disais tantôt. Il y a ces gens-là, finalement, qui arrivent à faire de très belles, très grandes carrières. Ça arrive pas comme ça. C'est pas un accident de parcours, disons.
Non, beaucoup, beaucoup de travail. Et Richard, c'est sûrement beaucoup de travail d'avoir conçu cette exposition. Donc, rappelle-nous les dates et à quel endroit c'est.
Alors, c'est au musée de Sutton, au 32 principal sud à Sutton. Donc, jusqu'à l'Action de grâce, on est ouvert 4 jours par semaine, du vendredi au lundi. Et après, pour l'automne, jusqu'à la fête du travail, jusqu'à la fête du travail, c'est 4 jours par semaine. Et jusqu'à l'Action de grâce, on va revenir à 2 jours par semaine, les samedis et dimanches.
Okay. C'est Internet?
Ah, c'est moniquelérac.com.
Ah, ben c'est facile.
On a misé de Sutton.com, qui est le général, mais j'ai fait moniquelérac.com pour l'exposition. On fait chacune des expositions.
On reconnaît le grand publicitaire que tu es, Richard Leclerc. Merci d'avoir été avec nous.
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci encore de votre part de m'inviter régulièrement. J'aime bien.
Absolument. Et on ira visiter cette belle exposition. Merci, Richard.
Ah oui, il faut voir ça. Au revoir.
À bientôt. Après la pause, Marie-Ève Fortier, autrice de Transformer sa destinée.
Vous écoutez Au fil de l'été avec Chantal Doré.
Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil de l'été, une belle rencontre. Une rencontre avec Marie-Ève Fortier, qui est autrice de Transformer sa destinée aux éditions ADA. Et c'est une personne pour qui j'ai eu un coup de cœur dans les réseaux sociaux et je me réjouis de vous la présenter. Je vous invite également à découvrir l'ensemble de nos émissions sur canalm.vusezvoix.com, également sur les plateformes de balado-diffusion, soit Spotify, Apple Balado ou Google Play Podcast. Tout de suite, après, on entend, on reçoit Marie-Ève, mais avant, puisqu'on parle de destinée et que plusieurs d'entre nous sommes en vacances, j'avais envie de vous faire jouer une pièce qui est tirée du film Les Sous-doués en vacances de Guy Marchand, qui s'appelle justement « Destinée ».
Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies,
patiemment, éperdument, passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard, destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier, m'appeler l'avenir. Malgré nous doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil. Attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Sur l'été destiné, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer.
C'était Destiné, tiré du film Les Sous-doués en vacances. Et je reçois en fait quelqu'un qui a répondu à notre appel. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur pour un ou une inconnue dans les réseaux sociaux? Une personne que vous avez eu automatiquement envie de connaître. Ça m'est arrivé avec notre prochaine invitée et je suis sûre que vous allez découvrir pourquoi. Alors, c'est Marie-Ève Fortier qui travaille en télé, mais elle me racontait en s'installant que sa mère a travaillé à la radio, donc on lui connaît très, très bien la radio. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Chantal, c'est tellement un honneur de te voir en vrai, enfin! Oui. Pour vrai, je suis vraiment heureuse de te rencontrer.
Moi aussi, absolument. Absolument. Je pense que les réseaux sociaux, on en dit beaucoup de mal, mais ça nous permet vraiment aussi de rencontrer...
Tout à fait. Qui se ressemble, ça semble, ça s'applique aussi même sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est bon. Et c'est ça, je connaissais plus là, ton travail en télé. Ben, ouais. Peut-être d'abord nous parler de ton background.
Ben, mon background, en fait, c'est que j'ai un emploi comme tout le monde. Je travaille en télé à TVA, je m'occupe des émissions de variété. Donc, c'est tout autre chose. Moi, j'ai deux personnalités. Donc, j'ai celle qui travaille et qui réalise son rêve de petite fille. Quand j'étais petite, c'est ce que je voulais faire. Puis là, je le fais. Je suis privilégiée parce que je suis passionnée par mon travail. Mais en deuxième partie, mon autre côté de ma personnalité, c'est que tout le côté spirituel, croissance personnelle, je baigne dedans depuis que je suis née. Donc, j'accompagne les gens, j'écris des livres et tout. Donc, ça aussi, ça occupe énormément de mon temps. Puis ça me permet d'accompagner mon prochain dans son développement puis dans son chemin.
On a un prochain livre aussi qui s'en vient.
Plus d'un.
Plus d'un.
Oui.
Ouais, tu m'as dit dans nos échanges, je suis un puits sans fond de sujets.
J'adore placoter. En plus, c'est parce que j'ai la passion. Donc, oui, je suis... amène-moi où tu veux, je vais te suivre.
D'abord, comment est né ce livre? Transforme ta destinée, tout ce qu'il faut comprendre pour passer à l'action. C'est une belle introduction.
Oui, hein, c'est quand même... c'est gros, hein, passer à l'action. En fait, il est né un peu comme tout le monde qui écrit un livre. J'ai toujours su que j'allais écrire un livre. Puis quand je le disais, les gens me disaient « ben oui ». Parce que c'est vraiment écrire un livre, c'est une épreuve olympique. Ça demande énormément. Ça m'a pris 4 ans à l'écrire. J'ai écrit 4 fois.
Oui, écrire, c'est ça, c'est réécrire.
C'est réécrire, puis on n'est jamais satisfait. Puis dans mon cas, je trouvais qu'il manquait dans cette catégorie-là, un livre qui s'adressait aux plus jeunes.
Ah.
Donc vraiment, moi, ma particularité, c'est que la tonalité, c'est vraiment pour aller parler aux 25-35. Fait qu'il est écrit vraiment dans un langage très familier, qui n'est pas mon écriture générale. Donc beaucoup d'anglicisme, un langage parlé, parce que je souhaitais vraiment connecter avec la personne qui lisait, qui sentait que j'étais devant elle.
qu'elles se reconnaissent.
Oui, fait que j'ai travaillé beaucoup la tonalité, puis les gens, j'ai eu beaucoup de retours quand je l'ai sorti en 2019, de gens qui m'ont écrit pour me dire « j'ai adoré comment il est écrit, parce que non seulement il est facile à lire, mais également j'avais l'impression que tu étais à côté de moi, tu étais un mentor ». Donc, vraiment, c'était pour combler un besoin, premièrement, dans l'industrie. Puis la deuxième chose, c'est que moi, je suis un peu comme, je suis carrément Astérix, je suis Obélix, pardon, je suis née dedans dans la potion magique quand j'étais jeune, c'est-à-dire que j'ai été élevée par une mère qui était spirituelle. Mm-hmm. À l'époque, on disait ésotérique.
Ah oui, hein?
c'est une autre époque. Alors, j'ai été élevée avec une mère chamane, maître Reiki, qui guérissait les gens. Donc, ma maison était toujours remplie de gens qui venaient voir ma mère pour guérir. Fait qu'elle m'a amenée, aussi loin que je me rappelle, elle m'a toujours donné accès à tout son savoir. Puis à m'amener dans des conférences. Mm-hmm. J'ai rencontré énormément de gens qui évoluaient dans ce domaine-là. Donc, sans le savoir, j'ai évolué, puis j'ai eu une base de connaissances qui était qui s'est acquise au fil de mm-hmm. ma vie parce que j'ai été élevée par ce type de personnes-là. Et la troisième chose, c'est que j'ai écrit aussi, je fais énormément d'écriture automatique, fait qu'il y a une mm-hmm. grosse partie du livre qui est en écriture automatique, mais je l'ai adaptée pour le vulgariser.
Quand on parle d'écriture automatique, parce que j'ai lu le livre de l'autrice de Eat, Pray, Love, où elle parle justement qu'autrefois, on disait que les gens avaient du génie, en fait, maintenant, on dit que les gens sont des génies, mais qu'autrefois, ils avaient des génies. Donc, il y avait des génies qui avaient envie de transmettre un message et qui choisissaient quelqu'un pour passer leur message.
Ben, c'est ça. En fait, là, j'aimerais ça m'approprier le contenu puis dire que ça vient de moi puis de mon imagination, mais comme tout artiste, quand on parle d'inspiration, il y a un génie quelque part, que ce soit une fréquence, que ce soit un plus grand que soi, que ce soit encore plus grand, une conscience, un être divin, peu importe comment on le nomme. J'ai été connectée puis je sentais, c'est drôle, dans le processus d'écriture, je me sentais vraiment poussée. C'est comme si quelqu'un prenait possession de ma main. Ça fait que ça passait pas par mes neurones puis par le cerveau, ça passait par un autre chemin, carrément.
Mais dans beaucoup de cultures, j'ai eu l'occasion, quand on était avant la pandémie, où j'ai eu l'occasion de voyager, souvent de discuter avec un homme, un Afghan, mm-hmm. puis disait que toute la connaissance est déjà là dans leur tradition, leur culture, et qu'on reconnecte à ce qu'on a besoin de savoir, que ça se réveille. Je trouvais ça intéressant, alors qu'ici, dans notre culture, on va plutôt dire que ça se compile comme information.
C'est drôle, j'ai des frissons quand tu dis ça, parce que le livre, c'est vraiment ça. C'est un livre d'accompagnement pour réveiller. On n'apprend rien. Moi, je me rappelle quand ma mère, elle me lisait des passages, là, puis pour les gens qui écoutent, qui ont peut-être été aussi élevés par des femmes ou des hommes plus ésotériques, des passages de Ramta, qui était une entité. Puis je répondais, je trouve ça tellement un manque d'humilité, mais je répondais, je le sais, mm-hmm. tu m'apprends rien. Donc, c'est la même chose pour n'importe qui. À un moment donné, il s'agit juste d'être prendre conscience puis d'être en contact pour s'éveiller à ça. Donc, le livre sert vraiment à juste réactiver ce qu'on porte en nous.
Oui, bien, en fait, même des disciplines peut-être perçues comme moins ésotériques, comme la PNL, par exemple, la programmation neurolinguistique, on va dire qu'on a toutes les ressources en nous.
Exact.
Et de se remémorer un temps où on était fort et d'être capable de s'ancrer à ce moment-là pour aller chercher tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de courageux en nous.
Puis même là, la sophrologie, mm-hmm. qui est la base pour avoir travaillé plusieurs années sur les émissions de Mesmer. Donc,
la
sophrologie, oui, je développais avec son équipe le contenu. La sophrologie est la base de l'inconscient. C'est accéder à un theta qui est le subconscient pour accéder à tout le savoir réside là aussi. Là. C'est libérer tous les doutes et les peurs. Fait que c'est même pas ésotérique, c'est même pas à l'extérieur. C'est juste enlever les couches pour accéder à ce qu'on a de plus puissant à l'intérieur.
Mais là, maintenant que j'étais devant moi et que tu m'annonçais que tu as travaillé sur Mesmer, j'imagine qu'on te demande tout le temps comment ça fonctionne.
Bien, ça fonctionne. Les gens me demandent toujours est-ce que c'est vrai.
Mm-hmm.
Et oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est sûr qu'à la télé, on fait du divertissement. Puis même mm-hmm. dans ces spectacles, il y a une part où la sophrologie puis tout le côté de l'hypnose est au service du divertissement. Mais la mécanique, j'ai fait des années avec lui, il n'y a rien qui est... C'est pas des acteurs, de toute façon... Il y a des centaines et des centaines de gens qui sont soit dans ces spectacles ou qui ont passé dans nos émissions, qui ont été mis en hypnose. On ne peut pas avoir 100, 200, 1000 personnes acteurs au Québec. Là. Donc, Fait que je peux vous dire que tout, absolument tout est vrai.
Mais en fait, l'autre question que les gens posent souvent, c'est à savoir est-ce qu'il y a une disposition à l'hypnose pour certaines personnes ou pas.
100% des gens sont réceptifs. La seule différence, c'est que certaines personnes, il y a une catégorie à peu près 10 à 15% des gens qui sont extrêmement réceptifs. Donc, c'est sûr que quand Mesmer fait les tests de réceptivité, vont tout de suite répondre. Mais quelqu'un qui semble peu réceptif, souvent, on va faire un blocage, c'est qu'on ne veut pas, puis on a peur de perdre le contrôle. Mm-hmm. Parce que quand même, moi, il me fascine. C'est pour le voir travailler, c'est qu'il y a un talent extraordinaire. C'est pas le seul hypnotiseur ou même les gens en hypnothérapie. C'est assez facile d'hypnotiser, mais lui, il a un talent, sa voix, il se met sur une fréquence. Puis dire qu'en 2 secondes et quart, il est capable de complètement prendre le contrôle de notre inconscient, c'est vraiment fascinant. Alors, les tests, quand on commence, soit les commençait ces spectacles, c'est juste pour aller chercher ces gens-là qui rapidement vont pouvoir répondre aux besoins de soit de son spectacle ou de l'émission de télé.
Je pense que c'est de se mettre au service de... Personnellement, j'y ai eu recours pour des problèmes reliés à des acouphènes.
Ouais.
Franchement, ça a vraiment changé ma vie là, de partir d'une situation qui est très handicapante à une situation qui se déroule bien. En tout cas, moi, je suis reconnaissante d'avoir... Ça m'amène justement à me... comment je pourrais dire, à pouvoir transformer ma destinée, justement, parce que quand on est affecté par quelque chose qui est dérangeant, on n'a pas la même ouverture à tout ce qui se passe autour de nous. Mais Marie-Ève, là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton livre?
Mais je vais faire le pont avec Mesmer, puis dans le fond, quand pour les gens qui ont regardé les émissions ou sont allés voir ces spectacles, ce qui est fascinant, c'est que quelqu'un qui a peur des hauteurs, à titre d'exemple, en 2 secondes, il va amener une programmation que la personne n'aura plus peur. Puis cette programmation-là, elle dure dans le temps. Là. Fait que c'est facile comme ça, là. C'est un claquement de doigts. Si Mesmer est capable, nous, on est capable aussi. La seule différence dans le chemin, c'est qu'il faut en prendre un peu plus conscience. Fait que dans le livre, je n'ai pas une approche de sophrologie ni d'inconscient, mais c'est une approche de prendre conscience sur qu'est-ce qui nous fait ombrage dans notre chemin. Fait que souvent, il y a des éléments qui partent de notre ego. L'ego, il est là pour nous mettre en mode survie, donc c'est lui qui va nous réveiller par rapport et nous mettre en état de doute et de peur. Ça, c'est, on stoppe, on arrête, parce qu'on a peur en premier, puis après ça, on se met en doute très, très facilement. Tous les liens aussi qui ont rapport à l'amour, les états qui vont porter, puis qui vont avoir des plus hautes fréquences, donc tout ce qui est la joie, la grâce, l'accueil... le lâcher prise, c'est des mots qui sont forts dans le langage, mais qui sont forts en vibration aussi. Donc, dans le livre, je décortique en 15 chapitres très courts ce qui compose un peu le chemin de la destinée, de façon, comme je dis, très, très succincte. Et j'ai des exercices également pour juste aider, justement, à travailler chacun de ces éléments-là, parce que sans doute, sans peur, on a accès à toutes les possibilités. Là. Fait que c'est ce qui est le fondement du livre, vraiment.
J'ouvre au hasard une page et je tombe sur le chapitre Sagrada Familia.
Ah, sur la famille, oui. Donc, la famille, en fait, pour faire un résumé, ah, c'est drôle, t'as vraiment tombé en plus sur ce chapitre. La famille, là, on parle plus de souvent, les gens vont se demander qu'est-ce qu'ils font dans la famille, ils n'ont rien en commun avec leurs frères ou leurs sœurs ou même leurs parents. Et l'approche qui est prise, c'est de dire que moi, je suis celle qui pense que le langage universel, c'est le langage de la vibration, puis qu'on se met sur des fréquences. Alors, nos familles sont là pour nous apprendre parce qu'on n'est pas tous sur la même fréquence. Alors, puis on doit apprendre dans notre famille à former une harmonie, mais pas une harmonie au sens de bien s'entendre, mais apprendre à jouer de la musique, de la vibration. Alors, j'explique un autre sens. Je donne une autre vision de ce qu'est la famille, en fait, parce qu'il y a deux types de familles. Il y a la famille de sang.
Oui.
Puis il y a la famille des amis, celle où on a des atomes crochus. Oui. Moi, ça me fascine la langue, que ce soit n'importe quelle langue, mais la langue française, puisque c'est la nôtre. Quand on dit atomes crochus, c'est vraiment ça. C'est qu'on on est fait d'atomes. J'émets une vibration. Quand je m'entends bien automatiquement avec quelqu'un, c'est parce que je suis sur la même fréquence. Fait que la famille, c'est aussi les gens qui nous entourent. Mais ce chapitre-là concerne la famille de sang et les problématiques qu'on a souvent.
Et qui reviennent parfois de génération en génération, parce que tu disais que tu as baigné dans cet esprit-là spirituel et tu crois que c'est d'une certaine manière, c'est une influence, mais un don aussi, une transmission?
Oui, ben en fait, de génération en génération, on parle souvent d'ADN dans le physique, mais il y a un ADN vibratoire aussi qui est donné. Puis dans cet ADN-là, c'est composé de pas de problématiques, mais de mon Dieu, cherche mon mot.
On va faire un...
Je vais parler du positif, peut-être je vais refaire le chemin, là, mais fait que il y a deux éléments qui reviennent dans la passation. Mm-hmm. C'est qu'on peut se faire donner des sensibilités, des dons de génération en génération. Donc, une médium, à titre d'exemple, souvent sa mère va avoir été médium, sa grand-mère va avoir été médium et tout. Puis toutes les problématiques familiaux, s'ils n'ont pas été réglés, mm-hmm. ils sont aussi transmises de génération en génération. Et quand on les reçoit, c'est inscrit et on répète les patterns. À titre d'exemple, quelqu'un qui a été battu, qui a eu de la violence, souvent quand on regarde dans les schèmes familiaux, ça se répète de génération en génération jusqu'à temps que la personne en prenne conscience et décide que c'est terminé. Cet élément-là ne va plus faire partie de la famille.
Donc, c'est peut-être un livre qu'on pourrait utiliser pour en prendre conscience et justement casser la chaîne.
Exactement, mais j'en parle pas dans ce livre-là, mm-hmm. ça va être dans le prochain.
Ah.
Parce que le travail, dans le fond, on tombe souvent quand on veut faire, on veut cheminer puis évoluer, on tombe beaucoup dans le comment. Comment je peux faire? Puis on veut toujours aller vite, régler nos problèmes. Mais souvent, le premier pas, c'est de comprendre le pourquoi.
Mm-hmm.
Donc, moi, mes livres sont orientés beaucoup plus sur le pourquoi des choses, parce que quand on prend conscience, on peut faire l'histoire de où ça part, ce qu'on vit dans le présent, puis dans construire notre futur, parce que notre futur se construit du présent. Alors, vraiment, moi j'ai envie d'écrire justement sur tout ce leg-là dans le prochain mm-hmm. livre familial, puis comme le pourquoi ça arrive et le comment on fait pour le régler après.
J'ai entendu qu'il y a le mot chocolat dedans.
Oui, bien c'est le titre, c'est un titre de travail pour l'instant. C'est le titre, c'est « Tu es venu ici pour goûter au chocolat », parce que la vision... personnellement, que j'ai de la vie, c'est qu'on vit pas par... On devrait pas vivre par objectif, mais par expérience.
Mm-hmm.
On est venu ici pour expérimenter les sens. C'est le plus grand cadeau, en fait, de la vie, c'est les sens. Puis on l'oublie parce que c'est tellement acquis.
Ouais.
On oublie le beau cadeau de l'odorat, de la vision. Puis quand on en prend conscience, tout devient encore plus beau. Alors, le goûter au chocolat, c'est vraiment parce que la majorité des gens aiment ça, ça goûte mm-hmm. bon, et je pense que chaque moment de la vie devrait se vivre selon une expérience, puis complètement oublier l'objectif. Donc, c'est vraiment de donner une nouvelle vision de la vie pour pouvoir justement prendre plus d'expansion, parce qu'on enlève le stress, il n'y a plus d'objectif.
Mm-hmm. Mais parlant d'expérience ou de sens, je t'invite en terminant, Marie-Ève, à nous présenter la chanson que tu as choisie, qui, je crois, va régaler notre sens de l'écoute.
Mais moi, en fait, j'ai choisi... une chanson parce que le plus beau cadeau que ma mère m'a fait, la plus belle citation qu'elle m'a dit, c'est « Fais confiance à l'univers ». Fais confiance à l'univers, ça part de la confiance. Puis je pense que c'est le mot, un des mots les plus importants du langage, le mot « confiance ». Et malheureusement, ma mère est décédée, mon père aussi. Fait que quand je manque j'ai besoin de la petite tape dans le dos, je mets cette chanson-là qui est « I believe in you » de Céline Dion, de Il Divo. Je trouve les paroles succulentes. Alors, j'aimerais l'offrir à vos auditeurs.
On écoute « I believe in you », une suggestion de Marie-Ève Fortier. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Ève.
Merci, Chantal.
À bientôt.
Bon été. Bye.
Bye.
I believe in you. Follow your
I Believe in You de Il Divo et Céline Dion. Vraiment, au cours de cette émission d'Au fil de l'été, nous avons été choyés en grande voix. J'ai envie de vous parler un petit peu là, de la période des vacances. Et évidemment, on parle de famille, on est dans une émission qui touche l'intergénérationnel et plusieurs d'entre vous avaient été privés de votre famille pendant plus d'un an. Peut-être avez-vous décidé de prendre des vacances en famille. Alors, je vous invite à aller sur le site de CAA Québec. Il y a un article qui s'appelle « Conseils pratiques pour des vacances intergénération réussies ». Et je crois que c'est important de soigner nos relations familiales et de prendre vraiment le temps de réfléchir à les besoins de chacun, tenir compte des besoins de chacun, de s'informer des attentes, des limites de chacun, de demander à chacun comment il entrevoit ses vacances. Est-ce qu'on souhaite être toujours ensemble ou seulement le soir? Veut-on prendre ses repas au restaurant? Quel type de restaurant? À quelle heure? Préfère-t-on avoir un voyage tout organisé ou improvisé? Et de savoir vraiment... qu'est-ce qui fait que chacun va avoir des vacances réussies et de se rendre responsable de ce besoin? C'est un article donc sur CAA Québec. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voyager régulièrement avec ma famille et nous avons toujours pris le temps avant le voyage de faire une rencontre où on précise nos besoins, nos attentes et ça nous permet, quand il y a des petits accrochages en cours de voyage, de se rappeler cet engagement-là que ce qu'on va vivre ensemble est plus important que toutes les petites chamailleries, petits accrocs qu'il peut y avoir en cours de route. Alors, c'est un petit article vraiment que je vous recommande vivement parce qu'à la fin de notre vie, c'est ces moments-là qui sont le plus précieux. Je vous invite à aller sur le site moniquelérac.com pour avoir un aperçu de l'exposition sur cette grande interprète dont nous a parlé Richard Leclerc. Et si vous voulez connaître le livre de Marie-Ève Fortier, c'est « Transforme ta destinée » aux éditions ADA. Merci beaucoup à nos collaborateurs, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, le jeune Steven Bilodeau nous présente une de ses aînées favorites, Madame Massicotte, et Laurent Brault de « Pour que vieillir soit gay », qui nous parle de la situation des aînés homosexuels. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine magnifique. Profitez bien des belles journées ensoleillées et des journées où il pleut pour... se reconstruire, lire, faire du Netflix et avoir du plaisir avec les gens qu'on aime. Bye bye!